Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Puisque nous sommes vendredi, autant terminer la semaine en fanfare, non pas avec un breton. La Bretagne a des flancs, elle a des phares, mais toutes les fanfares ne sont pas nécessairement bretonnes, mais avec un musicien qui est à lui seul une véritable caverne d'Ali Baba. Baba, c'est l'état dans lequel on est en écoutant ses prodiges sonores, ses croisements inspirés, dans lesquels il malaxe avec le talent d'un alchimiste, les manes de Bernard Herrmann, de Lalo Schifrin, d'Ennio Morricone, avec le son de Memphis, François de Roubaix ou Anne Roumanoff. Fred Palem, c'est son nom, est un agitateur de son et d'humeur. Un homme qui vous invite au voyage. D'ailleurs, son album s'appelle L'Odyssée, à une époque où la musique gagnerait beaucoup à ouvrir les fenêtres pour faire circuler un peu d'air entre tous ces genres bien rangés sur les étagères et soigneusement préservés dans la naphtaline. Disons les choses autrement, Fred Palem est comme une fenêtre qui ouvre sur le large. Ouvrez-la, la fenêtre, hein, pas Fred Palem, et respirez un grand coup, vous verrez, ça fait du bien. Bref, Fred Palem est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine. Vous ne m'avez jamais présenté avec autant d'allant que notre invité.
Ah bon?
Ouais,
c'est
non.
Vrai
non.
Vous trouvez que je manque d'allant en vous présentant?
Ouais.
Les reproches.
Bonjour
les reproches,
Fred Palem.
Toujours des reproches.
Bonjour,
au menu de Popopop, eux. Eux, ce sont les deux frères de Lemon Twigs, ce groupe de rock américain dont je suis foufou. Enfin, nous n'aurons qu'un demi-citron car l'un des deux est souffrant. Mais avant ça, intéressons-nous à celui qui, après avoir remixé les génériques de dessins animés cultes, vient nous parler de son nouvel album qui sort aujourd'hui. Rebonjour Fred Palem.
Bonjour Antoine.
On a entendu l'inspecteur Gadget revisité par vos soins, mais justement, est-ce que ce n'est pas ça la pop culture finalement?
Ben si, c'est justement, notamment pour l'orchestre Sac du Tympan, c'est justement arriver à mélanger le savant et le populaire. Mm-hmm. Donc voilà, donc moi j'aime bien amener le public à moi avec des choses des fois peut-être plus faciles, pas avec de la facilité, mais aussi je peux lui amener des choses plus compliquées.
Alors,
comme
attendez,
le dernier album.
Là, vous croyez que vous êtes débarrassé de la définition de la pop culture?
Pas du tout, ah
non. Pas du tout, elle arrive, parce que contractuellement, je dois avoir un jingle qui fait peur et prendre ma voix de trailer américain pour poser cette question. Je reprends donc.
Allons-y.
Morveau, Fred Palem, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de Christophe Chassol.
Pour moi, c'est quand quelque chose de savant arrive à pénétrer un truc mainstream. Et quand la culture élitiste arrive à plaire à beaucoup de monde. Michael Jackson.
Michael Jackson. Et pour vous, Fred Palem?
Christophe Chassol, que je salue, qui est un copain. Il a tout à fait dit la bonne définition. Mmh. C'est-à-dire, voilà, moi j'aime bien quand il y a du savant dans le populaire, du populaire dans le savant. J'aime pas quand c'est tout noir ou tout blanc. Et voilà, c'est pour ça que je fais un disque pour les gamins où il y a de la musique de dessin animé en grande formation. Et puis l'année d'après, je fais un disque avec que des compos, beaucoup plus fouillé, plus dissonant, plus voilà. Mmh. C'est ça que j'aime bien. Le savant, le populaire, le savant, et je jongle avec ça tout le temps. Voilà. C'est ça la pop culture pour moi.
Bien. Fred Palem, on va continuer à parler de pop, de culture et de pop culture juste après un extrait d'un dernier album de Christine and the Queens. Ça s'appelle La Marcheuse.
Agressif, je vais toujours au devant.
La marcheuse, extrait de Chris, le dernier album de Chris, ex Christine and the Queens.
C'est un problème avec les S, non?
Oui, les sifflants sont parce vrai. Que je sors de chez le dentiste. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec celui qui a collaboré, alors attendez, je prends ma respiration... Vanessa Paradis,
Sébastien Tellier, Charles Aznavour, Charles Gainsbourg, Philippe Catherine, Michel Legrand, Camus, Serral,
Yann Moreau, Jean Rochefort. Mais qui est-il? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, pop portrait, c'est votre portrait, Fred, mais... Et c'est signé Charlie.
Oh, il n'y a pas que les sifflantes, en fait. On est sur un gros problème d'orthophonie. Aujourd'hui, nous recevons celui qui est à la musique, ce que le professeur Jones est à l'exploration. Fred, Indiana, même combat. Mais en lieu et place du fouet, vous trouvez notre invité équipé d'une baguette. Ni magique, quoique, ni à manger. Plutôt de celle qui servent à diriger, puisqu'il est chef d'un orchestre bien particulier, le Sacre du Tympan, qui fait rien qu'à explorer les genres, les sons, les chansons, folk, de dessins animés, de blaxploitation, électropop. Et maintenant, il nous propose une odyssée, rien que ça. Notre invité prouve aussi que pour se permettre ce grain de folie musicale, il faut être carrément capé, lui est multiprimé, et quand il ne se déplace pas en bande, organisée et musicale, comme vous venez de le rappeler, il compose et arrange pour les autres, quand il ne se livre pas à la confection de bandes originales ou de bandes-sons de spectacle. Moi, je vous le dis, je ne serais pas étonné de voir fleurir une franchise de type Fred Palem, l'aventurier du Sacre perdu. Fred Palem et le Temple maudit, ou Fred Palem et la dernière croisade.
Ah, c'est une bonne idée, ça, la franchise.
Pas mal. Ah, ouais, c'est une bonne idée. Il faut que j'y pense.
Mais pas de fouet.
Pas de fouet.
Le fouet,
ça dépend. Faut voir.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Par rapport à Indiana Jones.
Par rapport à Indiana Jones.
Non, rien.
C'est pas une proposition.
Non.
Bien, dans la liste des artistes avec qui vous avez collaboré, je citais Aznavour qui vient de nous fausser compagnie. Quel souvenir vous laisse-t-il, ce Charles Aznavour?
Quel souvenir? Écoutez, je me souviens, j'ai jamais vu une cave avec autant de grands crus.
Vous voulez, il picolait beaucoup, quoi?
Non, il ne buvait plus du tout, mais par contre, il avait une cave qui m'a montré. J'ai jamais vu autant de grands crus au mètre carré.
Fred Palem, vous êtes créatif, nous l'avons compris, mais où allez-vous puiser votre inspiration? On va aller voir ça dans votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix se porte sur Pierre Lambroussaillet, Der Strumpfelpeter en VO, livre de comptines de Henrik Hoffmann, publié en 1858. Charline, je ne sais pas si le Pierre dont vous partagez la vie est en Broussaillet ou pas, mais quoi qu'il en soit...
Rien ne va.
Dites-nous, s'il vous plaît, deux mots de cet ouvrage.
Avec grand plaisir, Antoine. Un ouvrage dont le sous-titre est Histoire gay illustrée pour nos petits. Et il est aussi connu sous le titre Crastinias ou Amusante histoire et plaisante image pour les enfants de 3 à 6 ans du docteur Heinrich Hoffmann. C'est un recueil de leçons de morale à l'usage des enfants et qu'il ne serait pas inutile de faire lire à l'occasion à certains grands. Enfin, je me comprends.
Oui, je me comprends aussi. Avant de nous expliquer ce choix, Fred, pouvez-vous nous en lire un extrait en VO, bien sûr?
Yeah. Der Struwwelpeter, sie einmal ersten Herr, puis der Struwwelpeter, an den beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr.
Mais sinon, ça parle de quoi, là?
Ça parle, c'est le livre qui m'a le plus terrorisé de toute ma vie. C'était un livre qui avait été écrit par un vieux monsieur, là, monsieur Hoffman, pour ses petits-enfants, pour leur apprendre les bonnes manières. Et c'est extrêmement bizarre parce que, par exemple, il y a un épisode terrifiant où il y a une petite fille qui suce son pouce tout le temps, et sa mère lui dit, je vais aller faire les courses, tu suces pas ton pouce pendant que je suis pas là, sinon le grand tailleur arrivera avec ses ciseaux et va te couper les pouces. La mère s'en va évidemment faire les courses, le tailleur rentre dans la pièce avec des ciseaux, lui coupe les doigts, il y a une mare de sang par terre.
Oh là là.
Vous vous rendez compte?
Mais c'est horrible. Les illustrations sont effrayantes. Hein.
Et les illustrations sont effrayantes. Mais d'un autre côté, il y a des histoires plutôt bien. Par exemple, il y a un groupe d'enfants qui se moquent d'un petit enfant noir. Et il y a Saint-Nicolas qui arrive, qui les attrape. C'est un géant, il les attrape, il les trempe dans un encrier. Et quand il les ressort, ils sont encore plus noirs que le petit noir. Donc c'est très bizarre comme livre. Il y a des histoires. Bon, voilà. Mais c'est un livre. Moi, quand je faisais l'imbécile, il suffisait qu'on me dise attention, je vais aller chercher Pierre Lébouriffé, Der Struwwelpeter. Et là, je me calmais tout de suite parce que j'étais terrorisé. Enfin, il y a plein d'autres histoires terribles là-dedans.
Un livre que nous conseillons donc à tous les parents qui nous écoutent. Passons à votre film culte. C'est ça.
Arnon Milchan presents a Sergio Leone film starring Robert De Niro. Once upon a time in America, the story of friends. As boys, they made a pact to share their fortunes.
Agreed.
Their loves and their lives.
You'll put up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing. Just like you did for Bugsy.
You was better off you stayed in the Bronx.
As men, they shared a dream to rise together from poverty to power.
Ah bah oui, obéis au culte aussi puisqu'il s'agit d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, c'était en 1982. Alors je pense connaître la réponse, mais je demande quand même pourquoi vous choisissez ce film, Fred.
Bah parce que c'est une façon de faire du cinéma qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'adorais cette façon de faire, c'est-à-dire le réalisateur, il a une vision extrêmement précise du scénario de A à Z. Et on peut voir les interviews de De Niro et même les acteurs des films précédents qui travaillaient avec Sergio Leone où il leur racontait le scénario exactement comme le film se déroule. C'est-à-dire le film dure 4 heures, quand il raconte le scénario, c'est 4 heures. Mmh. Donc il avait une idée très précise de tout, des plans et tout ça, et il voulait la musique enregistrée, mixée avant que le film commence à se tourner, et il diffusait la musique sur le tournage. Donc la musique, elle a un rôle comme De Niro dans le film, quelque part. Et donc, elle a un rôle très important. Et elle a un rôle narratif aussi. La musique n'est pas censée être tout le temps narrative dans un film. Mmh. Des fois, elle doit disparaître. On n'est pas obligé de l'entendre tout le temps. Il peut très bien avoir, dans un film aussi, pas de musique du tout. Ouais. C'est très bien. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on a un peu oublié le rôle narratif que peut avoir la musique.
Et là, je sens l'expert de musique de film qui est en vous. musique de film auquel vous avez rendu hommage, déjà,
ouais,
dans le passé.
Oui.
Mais vous êtes certain que cette façon de faire s'est totalement perdue?
Bah, je sais pas. Si vous avez quelque chose à me conseiller, je suis partant. En tout cas, c'est quelque chose qui tend à disparaître de plus en plus, qui se fait quasiment plus.
Sans avoir travaillé avec la musique sur le tournage, on sait que Desplat, avec Guillermo del Toro, par exemple, sur un film comme La forme de l'eau, a eu une mission très précise et a envisagé la musique comme un personnage aussi.
Bah, tant mieux, je suis ravi pour Alexandre, mais c'est vrai que c'est des exceptions. Ouais, c'est des exceptions. Aujourd'hui, c'est plutôt de la décoration. C'est plus du design sonore aujourd'hui, de la musique, en fait. Voilà.
Et merci, Charline, pour cette bonne nouvelle. Fred Palem, passons à votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
It's raining today and I watch the cellophane streets, no hang-ups for me. Cause hang-ups need company.
It's Raining Today de Scott Walker. Cet extrait de l'album Scott Free, paru en 69. Alors Charline, je connais Johnny Walker, hein, Johnny le Marcheur, mais qui est Scott Walker, Scott le Marcheur, un musicien macroniste peut-être?
Je ne le crois pas, Antoine. Il a fait partie du trio de faux frères The Walker Brothers. Il est entre autres célèbre pour ses adaptations en anglais de chansons de Jacques Brel. Et nombreux sont ceux qui l'adulaient, parmi lesquels David Bowie, Pulp, Neil Annon ou encore les Last Shadow Puppets.
Et donc Fred Palem, et je crois comprendre pourquoi vous l'aimez tant. À entendre ces arrangements étranges.
Exactement.
Derrière.
Vous avez vu cet accord derrière qui est incroyable. C'est un accord qu'on peut pas chiffrer. C'est la chanson, en fait, c'est une chanson de cow-boy. C'est trois accords. C'est do, fa, sol. Mais lui, il voulait aller plus loin que ça. Il voulait avoir cet accord extrêmement bizarre derrière qui illustre ce qu'il est en train de raconter, quoi. Il regarde à travers une fenêtre et il pleut et il se rappelle des choses. Voilà. Donc c'est magnifique. Puis c'est peut-être le plus grand chanteur que j'ai jamais entendu avec Elvis et Sinatra, quoi. C'est à cause de gars comme ça que je chanterai jamais.
Vous aussi. Ouais. Vous préférez Sinatra à Dean Martin?
J'adore Dean Martin aussi,
bah oui,
évidemment.
Il est plus marrant, Dean Martin.
Enfin. Il est plus marrant, mais l'autre, il est énervant, quoi. Il a un espèce de placement.
Ouais, il chante trop bien.
Il est énervant.
Bien, Fred Palem, terminons cette pop liste avec la série télé. Et pour la série télé, votre choix s'est porté sur Amicalement Vôtre, une série britannique de Robert S. Baker. Charline, je sais que petite fille, vous rêviez d'épouser Roger Moore. Un rêve resté, hélas, lettre morte, mais dites-nous deux mots du film.
Mais tellement pas. Pour ce qui est de la série, elle allie un aristocrate anglais, Lord Brett Sinclair, un Roger, donc beau parleur cultivé, habitant Londres et oisif, un homme d'affaires américain sorti des bas-fonds new-yorkais. Daniel Wilde dit Danny, un rôle interprété par Tony Curtis.
Fred Palem, ça vous fait quoi d'entendre ce générique?
C'est magnifique, c'est un des plus beaux génériques de série, je pense, John Barry. Je pense qu'en plus, c'est un morceau écrit comme un gars qui fait du sampling, en fait. C'est deux accords qui tournent en boucle, avec des choses qui tournent en boucle, comme ça. C'est des boucles, c'est le début des boucles, en fait. Et il racontait, justement, John Barry, qu'il avait été très influencé par François Drouet pour ce truc-là. C'est pas un morceau très orchestral, comme il faisait d'habitude. C'est un morceau qui est bricolé, un peu. Donc moi, j'adore ce truc-là. Il y a une nostalgie incroyable. Et je repense aux images, aussi, du générique d'Amicalement Vôtre. Et à la limite, l'histoire qui va suivre est peut-être, c'est anecdotique, mais rien que le générique, avec ses deux destins parallèles, avec quelqu'un qui est issu de l'aristocratie et l'autre qui arrive plutôt des classes populaires et tout. Enfin, ça me fout les frissons rien que d'en parler. Franchement, c'est un des plus beaux génériques. En plus, tout est en multiscreen et tout. J'adore le multiscreen.
Bien, bah écoutez, je crois que ma pop-liste est complète. Je résume. Der Stummblair Peter, il était une fois en Amérique. It's raining today. Et Amicalement Vôtre. Je mets tout ça dans mon petit mixeur de pop culture.
Voilà.
Et ça nous donne ça.
Once upon a time in America.
Der Stummblair Peter, the einmal hier stehen hier.
It's raining today.
You was better off you stayed in the Bronx.
Ließ sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr.
As men, they shared a dream to rise together from poverty to power.
Et voilà ce qui traîne dans la tête de notre invité Fred Palem. Eh ben, c'est du propre.
C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Tout ça remixé par Ghislain Fontana, qu'on félicite au passage, le légendaire Ghislain Fontana du studio 404.
Bravo.
Bien, Fred Palem, avant de parler de l'Odyssée, votre nouvel album qui sort aujourd'hui, écoutons un extrait, tout de suite, et le morceau, c'est l'Odyssée, justement.
Thank you.
L'Odyssée dans Pop 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 sur France Inter, c'est signé Fred Palem, notre invité d'aujourd'hui. Fred Palem, l'Odyssée, le titre de cet album, ce n'est pas un titre tout à fait anodin. Dois-je en conclure que vous êtes Ulysse et que vous rentrez chez vous après un long voyage? Et si oui, pourquoi étiez-vous parti?
Ouais, non, c'était un long voyage parce que j'ai mis pas mal de temps à l'écrire et au bout d'un moment, bon, bah, je commençais un peu à tourner en rond. Je faisais d'autres projets à côté, hein, avec d'autres gens. J'ai monté d'autres projets en même temps, avec l'orchestre, évidemment, parce que quand on a un orchestre, il faut faire toujours plusieurs projets en même temps.
Qui voilà, existe depuis 20 ans.
Ça fait 20 ans, ouais, bien sûr, mais il faut toujours amener de la musique en permanence, voilà. Donc, mais bon, ça faisait longtemps que je m'étais pas un peu recentré sur moi-même et j'avais pas apporté de la musique originale. Mmh. Et donc, bon, voilà, ça marinait, et puis il est arrivé un truc fabuleux dans ma vie. Cette année, je suis papa d'une petite fille de 7 mois, et sachant qu'elle allait arriver début mars, ça m'a poussé, mais comme jamais. Je me suis retrouvé avec une énergie de dingue. Et le disque qui marinait depuis au moins 3 ans, il a été fini en 2 mois.
Et j'imagine qu'elle se prénomme Pénélope.
Non, elle s'appelle Jeanne.
Jeanne, bonjour Jeanne qui nous écoute. Est-ce que comme Ulysse, vous allez vous débarrasser manu militari de tous les prétendants qui ont envahi votre palais?
Non, mais les prétendants, c'est mes ennemis, c'est ça, ou
les prétentieux?
Les prétentieux, oh, je sais pas, non.
Non, mais tout ce monde qui encombre un peu la musique, là.
Ah oui, non. Bah, il faut faire avec, hein.
Il faut faire avec.
Il y a les Lemon Twigs qui arrivent tout à l'heure, voilà. Donc là, on est très bien.
Hein. Enfin, la moitié d'un citron.
La moitié d'un citron.
Très souffrante.
Vous êtes le seul membre permanent du Sacre du Tympan. Est-ce que vous avez profité de cette odyssée pour recruter?
Oui. Absolument. J'ai changé un peu l'équipe. J'avais besoin. Voilà, je sais pas. C'est pas pourquoi. Il y a des fois, je ressens pas le besoin. Et là, j'en ai ressenti le besoin. J'avais envie de musiciens un peu différents, voilà, que j'ai rencontrés suite à mes différentes pérégrinations. Et donc voilà. Donc c'est une nouvelle équipe en partie, ouais.
En chemin, durant cette longue odyssée, est-ce que par hasard vous auriez croisé la route d'une sirène musicale, j'entends, qui vous aurait tapé dans l'oreille? Quel est votre dernier choc musical?
Mon dernier choc musical. Récemment, en ce moment, je sais pas si je vais l'écouter tout le temps, mais en ce moment, j'arrête pas d'écouter Parcells. J'adore ce groupe. Ouais, puis surtout, j'ai vu un live. J'espère qu'il était pas trop trafiqué, mais j'ai trouvé que le live était vachement bien. J'espère que c'est vrai, ça joue vraiment bien comme ça, quoi.
C'est très bien en concert.
Ouais, c'est ça. C'est comme les Lemon Twigs. Je les ai découverts sur un concert Arte. J'étais sur le cul.
Ils sont hallucinants.
Ça m'a fait tellement du bien de voir des gars de cette génération-là qui jouent des instruments, qui sont pas juste avec des boutons ou avec un lecteur CD sur scène, quoi. Voilà. Moi, je défends le musicien tout le temps, quoi.
Et vous avez raison.
Vous dites, et vous nous l'avez répété là, il y a un instant, pour faire durer un orchestre, il faut lui donner à manger en permanence.
Ouais.
Et vous, à titre perso, pour durer, de quoi vous nourrissez-vous?
Moi, j'ai toujours un projet sur le feu, quoi. Tout le temps. Moi, je suis drogué au travail, donc il faut toujours que j'ai quelque chose. J'ai toujours plusieurs projets d'avance, en fait. Mmh. Voilà, j'ai toujours plusieurs coups d'avance, parce que sinon,
y compris en ce moment.
Ah oui, y compris en ce moment.
L'Odyssée sort, mais vous avez déjà un.
Ouais. Ah oui, j'ai déjà.
Il est déjà ailleurs.
Il y a déjà. Ah oui, bah, évidemment. Moi, le disque, à partir du moment où il est masterisé, c'est terminé pour moi.
Ouais.
Je l'écoute plus. C'est à vous de l'écouter. Moi, c'est pas mon truc.
Le dossier de presse du disque parle de vous comme d'un Quentin Tarantino du son, transgressant résolument les limites définies par les censeurs du bon goût. Tarantino du son, ça vous convient?
Ça me convient. Bah oui, j'adore Quentin Tarantino. Non, mais dans le fait qu'il recycle des trucs, des fois un petit peu, qui peuvent paraître un peu usité, un peu ringard. Moi, j'aime bien cette idée-là. C'est
cinéma de genre.
Ouais. Aller chercher. Enfin, je suis persuadé qu'il y a du bon. Il y a du mauvais, évidemment, mais il y a du bon partout, quoi. Même dans les styles les plus bizarres. Et non, c'est très flatteur. Ouais.
Parmi les références que vous citez volontiers pour la conception de cette odyssée, il y a celle-ci.
Oui.
David Axelrod, compositeur, arrangeur et producteur américain, qui, comme vous, a composé dans de nombreux genres musicaux et qui a été depuis multi-samplé. Qu'est-ce qui, chez lui, vous a intéressé, inspiré?
Ce que j'ai aimé, c'est l'utilisation des cordes. J'avais envie d'utiliser des cordes pour cet album, chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc là, il y a un ensemble de 11 cordes sur cet album. J'ai toujours fait des choses plutôt cuivrées, qui s'apparentaient entre guillemets au jazz. Et les cordes, j'en faisais plutôt à côté, dans mes travaux d'à côté. Donc quand j'ai travaillé avec Lavilliers ou avec Aznavour, machin, ça j'en faisais tout le temps en fait. Et j'avais eu un peu une étiquette de le gars qui écrit pour les cuivres. Mais en fait, mon langage à la base, c'est plutôt les cordes. Je suis contrebassiste, quoi. Et donc, j'adorais ce disque de David Axelrod parce que je trouve que les cordes sont utilisées avec beaucoup de sobriété. Et il écrit de manière très très sobre, il en met pas partout, et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, donc,
Je reviens juste un instant sur cette référence qu'on faisait à Quentin Tarantino, parce que vous jetez un coup de projecteur et vous mélangez des pans entiers de musique longtemps regardés de haut par les spécialistes. Hein, comme étant des sous-genres, notamment tous ces notables du goût là qui trouvent que la musique pop est vulgaire. C'est une vraie prise de position.
Oui, quelque part, il y a des choses que j'ai envie de défendre, c'est sûr. C'est la musique orchestrale, jouée avec par des vrais musiciens et par beaucoup de musiciens. Mmh. Voilà. Moi, j'ai toujours eu envie de faire un groupe avec beaucoup de musiciens sur scène. Voilà. Donc,
vous avez toujours aimé les big bands, les.
Ouais, quand il y a 15 musiciens sur scène, je dis pas que c'est mieux, mais c'est pas pareil que quand il y en a 5. Ouais.
Et ça, c'est quoi votre big band de référence? C'est quoi? Tad Jones, Mel Lewis, Charlie Mingus?
Voilà, Tad Jones, Mel Lewis, très très bon exemple. Mais il y en a tellement d'autres. Voilà, j'adore Carla Bley aussi, j'adore Mingus évidemment. Mais voilà, je défends avant tout la musique orchestrale, les grandes formations. Et c'est pour ça que je suis président de la fédération Grand Format d'ailleurs, qui est la fédération des grands orchestres en France, les grands orchestres de musique improvisée.
Et la vulgarisation chic, est-ce que c'est aussi pour ça que vous vous adressez à des publics divers et variés, d'âges différents?
Ouais, mais je m'adresse à des gens comme si je m'adressais à moi-même en fait. Je cherche pas à faire un truc que moi je comprends pas ou que moi j'aurais du mal à percevoir. Voilà, quand je fais quelque chose, un concert sur la Blaxploitation, c'est un peu pour, il y a un côté un peu didactique, quoi, pour faire comprendre ça aux gens. Sur François de Roubaix, pareil. Voilà, c'est des concerts un petit peu, c'est vraiment tout public, quoi. Voilà, c'est pour apprendre des choses nouvelles aux gens, essayer de leur faire comprendre deux trois trucs, quoi.
Alors, le hasard du calendrier veut que votre album, l'Odyssée, Fred Palem,
sorte aujourd'hui,
cette semaine où on célèbre le 100e anniversaire de la naissance de Leonard Bernstein, lui-même chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, qui s'est toujours battu pour faire tomber les murs entre les genres, en mixant le classique, le jazz, le gospel, le blues, etc. Est-ce que ça fait partie de vos modèles, Bernstein?
Évidemment, mais les concerts pour les jeunes de Bernstein, mais c'est fabuleux. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi il y a plus ce genre de choses aujourd'hui. Enfin, c'est totalement incroyable. Je me souviens aussi d'un programme court qu'il y avait sur Arte, une époque où il y avait Pierre-Laurent Aymard, un grand pianiste français, qui expliquait des œuvres très très courtes sur le piano, et ça pouvait aller de la petite musique de nuit à un truc complètement barré de Stockhausen, et je vous garantis que n'importe qui regarde ça, il comprend. Et oui, évidemment, c'est
justement
magnifique.
Au sujet de la musique, il y a des masterclass pour les jeunes, pour les enfants. Il en avait fait une émission télé et il disait ça, Bernstein, écoutez.
Peu importe toutes les histoires qu'on a pu vous raconter sur ce que signifie la musique, oubliez tout ça, on se fiche de ce dont parle la musique. La musique est, c'est tout.
Est-ce qu'on intellectualise pas trop la musique finalement, Fred Palem?
Oui, peut-être. C'est vrai qu'il faut percevoir ça de manière purement physique, sensorielle, quoi. Voilà, enfin, je sais pas, je discute souvent avec des gens, je leur demande, est-ce que vous êtes allé écouter un concert à la Philharmonie? Alors, la première réponse, c'est, oh bah non, c'est trop cher, tout machin. Je leur dis, bah non, il y a des places pas chères du tout, enfin, faut aller voir. Et puis, ouais, mais la musique, ça va être compliqué, tout machin, etc. Je dis, mais te préoccupe pas déjà de ce que c'est. Tu y vas et juste, c'est une expérience physique, déjà, qu'il faut absolument connaître, quoi. Avoir un orchestre de 100 personnes qui joue devant toi, faut absolument y aller, quoi.
C'est marrant que vous parliez de la Philharmonie parce que on y rendait hommage il y a quelques jours à Frank Zappa. Frank Zappa, dont la musique était aussi extrêmement écrite, mais laissait une grande part d'improvisation sur scène aux musiciens. Écoutez-le.
Je dirais que ce que nous faisons est très impulsif, en particulier ce que nous faisons sur scène. Beaucoup de choses se font sur l'instant. Nos concerts sont faits de moments que nous avons répétés et qui sont entrecoupés d'espaces vides durant lesquels tout devient possible. Et les choses qui s'y produisent dépendent de ce qui s'est passé dans notre journée, à notre réveil, ou en chemin pour venir au concert, ou de l'ambiance du public, des choses comme ça.
Vous faites partie de cette école ?
Oh, je sais pas, enfin, je suis pas fan de tout ce qu'a fait Zappa, mais j'ai un immense respect pour le gars. Je regrette vraiment de pas l'avoir vu en concert. Il faut voir absolument le concert qui s'appelle Roxy and Elsewhere, mm-hmm. le concert au Roxy qui est absolument mm-hmm. incroyable. Et j'ai rarement vu un groupe sur scène avec une telle cohésion. On ne sait pas ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Mm-hmm. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Ils enchaînent un morceau à fond la caisse, ils font une reprise de Stravinsky, pap, il y a un mec qui monte sur scène qui raconte une connerie, ça se termine, il y a des stripteaseuses et il s'en va avec une fille à poil. Mmh. Non mais on sait pas.
Est-ce que c'est ça qu'on cherche à atteindre?
Mais oui.
Quand on est sur scène avec un.
Mais ouais, moi je trouve que, enfin, en termes de performance scénique, c'est absolument fabuleux, quoi. Dans ce sens-là, Zappa, c'est incroyable. Ce qu'il dit là, dans sa phrase, il dit bon, moi, je laisse la place à plein de choses, à l'improvisation, tout ça. Il faisait ça, mais en même temps, il était capable aussi d'envoyer un score à Pierre Boulez, et Pierre Boulez lui répond ok, je suis ok pour le jouer.
Ouais.
Fred Palem, vous êtes érudit sans être condescendant. Je vous pose la question très directement, est-ce qu'il y a un genre musical que vous trouvez vulgaire ?
Vulgaire ?
Ouais. Dans lequel vous ne lanceriez jamais ?
Vous
n'auriez pas exploré, en tout cas.
Bon, y a plein de trucs que j'ai pas exploré, évidemment. Il y a des trucs que je suis pas au niveau. Par exemple, la musique électronique, je connais pas bien. Ça m'empêche pas d'en écouter. Il y a des trucs que je trouve absolument fabuleux. Par exemple, Mister Oiseau, j'adore. Non, il y a plein de choses que je connais pas. Je connais mal les musiques, par exemple le tango. Je connais pas tous ces trucs que je connais très très mal.
Mais ça vous rebute pas pour autant?
Pas du tout. Ouais. Non. Mais c'est juste, faut prendre le temps. Faut s'immerger, faut se mettre dedans. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Non, mais il y a rien qui me rebute a priori. Il y a des trucs super et des trucs dégueulasses partout. Donc
cet homme-là est tout terrain. C'est notre pic de la Mirandole de la musique et son nouvel album, le deuxième, hein, si je ne me trompe.
Le deuxième ?
Enfin, le deuxième, parce que le précédent datait d'il y a 7-8 ans
déjà.
Ah
oui, mais c'est
Soundtrack.
Ah oui, non, mais il y en a eu d'autres avant, en fait. Mais bon, c'est moi qui communique peut-être mal. Je crois que ça doit être le 8e en tout et pour tout.
Mais sous le nom, avec l'orchestre de musique originale ?
Ah, musique originale, ouais. Le dernier, c'était Soundtrack, c'est vrai.
Mais d'accord.
Ça remonte il y a 7 ans, mais il y en a eu d'autres avant.
Bon, ok.
Enfin, mais on les trouve plus.
Bon, voilà, on les trouve plus. Il s'appelle Odyssée et il vient juste de sortir aujourd'hui. C'est à ne rater sous aucun prétexte. Vous savez faire plein de choses, Fred ?
Oh oui.
Vous savez faire ça ?
Ah non, ça je sais pas.
Comment ça vous savez pas ?
Non, je sais pas faire. Non, par contre, je sais faire un truc. Oui. Je fais un truc comme ça.
Il se tapote le lobe de l'oreille.
T'arrives pas à faire ça ?
Attends. Essaye.
Je sais plus le faire.
En tout cas, c'est un délice pour les yeux. Hein. Je regrette qu'on soit à la radio.
Je savais, mais ça le fait plus. Je suis peut-être un peu vieilli, mais en me tapotant l'aube de l'oreille, j'arrivais à faire clic, clic, clic.
Ah, mais.
Ah non, ça, je sais pas. Non. Mais ça, c'est magnifique.
Même pas une petite tentative.
Non, bravo.
Bon, de toute façon, c'est pour lancer du pop news.
Une info de la plus haute importance à vous signaler ce week-end. Kanye West a assuré la partie musicale du Saturday Night Live, émission institution du divertissement aux États-Unis. Et c'est donc habillé en bouteille de Perrier qu'il l'a fait. Il a ensuite gratifié le plateau télé médusé d'une diatribe pro-Trump dont il a désormais le secret. Un discours que nous vous épargnerons ici aujourd'hui. Pour s'attarder sur cette autre info, le rappeur en pleine forme a aussi annoncé sur son compte Twitter, je cite, « The being formerly known as Kanye West, I am Ye ». Oui, il a tout simplement réduit son nom. Du coup, Toine, c'est à vous enchaîner.
Vous aimez vous faire peur, avec ou sans Yé, d'ailleurs? Eh bien, voici le livre qu'il vous faut, Le cinéma d'horreur, histoire de film culte par Michael Mallory. De ça à ça. En passant par ça.
Red rum, red rum.
Du muet à Paranormal Activity, secret des films, coulisses de fabrication et moult illustrations, c'est dans le cinéma d'horreur de Michael Mallory chez Hébec.
Premières images d'Elton John au ciné, enfin pour être tout à fait précise, du biopic qui va lui être consacré, c'est le jeune Taron Egerton qui lui aura la lourde tâche d'incarner l'inimitable interprète de Rocketman. Rocketman, c'est d'ailleurs le titre du film dont voici la bande-annonce.
There are moments in a rock star's life that define who he is. Where there was darkness, there is now you. And it's going to be a wild ride.
And I think it's gonna be a long.
Rocketman de Dexter Fletcher avec Taron Egerton vu dans Kingsman et Jamie Bell vu dans Billy Elliot. Il jouera lui le rôle de Bernie Taupin. Ce sera le 29 mai sur les écrans.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. T'avais peur, ça.
Oh non, pas vraiment, non.
T'avais pas peur?
Non, non, c'est plus Grinch, hein, c'est pas...
Ok, merci Charline. Avant d'accueillir Michael Daddario du groupe Lemon Twigs, on écoute un de leurs morceaux qui s'intitule « Small Victory ». Small Victory, c'est un morceau du groupe américain Lemon Twigs. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Fred Palem et oh, vient de nous rejoindre Michael Daddario du groupe Lemon Twigs. Bonjour Michael.
Ah, bonjour. How's it going?
Are you speaking français?
Non.
Lemon Twigs, je le disais en début d'émission, c'est le groupe du moment dont je suis foufou. Et je crois savoir que je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, Fred Palem?
Ah oui, j'adore. Le concert est magnifique, le concert sur Arte, là. Il faut absolument le regarder.
Alors, comme je ne suis pas trop en humeur de bosser aujourd'hui, comment est-ce que vous décririez leur musique, vous?
Je pense que c'est des musiciens qui font de la musique avec leur... leur cœur, sans se préoccuper de s'ils sont modernes, vintage ou quoi que ce soit. Ils font leur truc. Et donc ça, c'est une grande qualité, je trouve, de se foutre de ce qu'il y a autour. Mm-hmm. Et en plus, c'est des musiciens incroyables. Mm-hmm. Et ils sont multi-instrumentistes. Et pendant le concert, ils n'arrêtent pas de changer d'instrument. Tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose qui devient rare. Et j'adore.
Michael, vous êtes d'accord avec ça? Vous ne vous préoccupez pas du tout du moment, des tendances?
Oh, yeah, no, I don't care at all what anybody thinks.
Non, ça m'est entièrement égal ce qu'on peut penser.
Yeah, I think that's a pretty accurate...
description que vous faites est assez juste.
I don't know if I would be that... positive.
Je ne sais pas si je mérite de tels compliments, si positif, mais en tout cas, c'est ce qui est censé être. C'est comme ça qu'on voit les choses, nous aussi.
Michael Daddario, Lemon Twigs, c'est un groupe que vous avez formé avec votre frère Brian, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais que nous saluons. Je sais qu'il y en a un de vous deux qui déteste les interviews. Rassurez-moi, c'est lui.
Oh non, c'est moi.
Pas de bol, c'est moi.
I have trouble, I stumble a lot.
Oui, je bégaye, je bafouille, j'aime pas ça.
I mean, there you go. I don't have anything to say after that. Sounded like I was going to say something.
Vous
right?
croyez, vous pensiez que j'allais dire quelque chose, mais non, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà.
On va tout faire pour que ce soit le moins douloureux possible. Dès votre plus tendre enfance, vous avez baigné dans un univers très très musical entre studio et Broadway. Quand est-ce que vous avez su que vous en feriez votre métier?
Oh. I mean, that was going to be the thing that we did from
day one, man.
Depuis le début, on le savait, voilà.
You know, I acted a little bit.
Moi, je faisais un peu de théâtre.
That was fun. That was maybe a
ça,
possible.
Ça, c'était chouette.
You know,
il était profession. Peut-être question que je fasse du théâtre.
But yeah, we were always trying to like find different ways to.
Mais mon frère et moi, on essayait toujours.
What's it called? You know, like.
Trouver
just,
un
just
moyen
push our way into
de
the music industry somehow. You know,
faire
all
de la musique
like,
d'une
schemes,
façon
you know,
ou d'une autre. Vous savez ce qu'on fait quand on est jeune, hein, quand on est gamin. On essaye
like,
un peu tôt. Il y a des gens qui vous
qui
disent,
you know,
moi je peux faire de vos enfants des vedettes. Ah, ils jouent de la batterie,
you know,
c'est super. Bon, on continue, genre, je vais être ton manager. Bon, on était un peu...
BS schemes.
Oui, des plans un peu foireux, complètement foireux même parfois.
Ceci dit, on sentait très tôt que vous étiez très très bon.
Since I was a young boy, I played the silver bow. From Soho down to Rotten, I missed to play tomorrow.
But Brian, usually.
Car oui, Michael, on trouve sur YouTube des vidéos de votre frère et vous, même tout petit, reprenant les Who, les Beatles ou encore les Beach Boys.
Sure.
Vous êtes d'ailleurs encore très jeune, votre frère et vous, 20 et 21 ans, et pourtant, dès votre premier album, en 2016, on est resté stupéfait par vos influences musicales, des Kings aux Monkees, en passant par le musical d'un Stephen Sondheim. C'est votre père musicien qui vous a transmis cette incroyable culture.
Ah, both of our parents.
Ma mère aussi.
But not, you know, I don't know. You know, we get obsessed on our own. That's our own thing.
Mais bon, on en parle beaucoup, mais...
But the introduction, the initial introduction, sure, that was our parents.
C'est nos parents qui nous ont les premiers présenté la musique, ouais.
C'est une musique d'une époque dans laquelle vous vous retrouvez tout à fait. Quand je vous parle des Kings, par exemple, c'est-à-dire cette espèce d'orfèvrerie de la pop musique.
Non. It's just the first people
non,
to do
c'est pas tellement,
you know, these specific
c'est pas tellement ça. C'était les premiers à faire ce genre de choses.
Like, you know, the best musicals are,
par exemple, les meilleures comédies musicales.
You know, The King and I and stuff. These are the first.
Le roi et moi.
I mean, it's
The King and I.
If I'm supposed to talk about originals, the classics of, you know,
si je devais vous parler des
œuvres originales,
des classiques, ensuite, c'est pas une question
happened,
d'époque.
Man,
il se trouve que
know.
C'était à ce moment-là. Quoi.
I like
c'est
music
tout.
From all over the place.
Moi, j'aime bien la musique
when it first
de partout et de tous les temps. J'aime bien lorsque
the
la musique
music of
sort.
Today.
Donc la musique qui sort
that's
aujourd'hui,
new,
par exemple. Donc il y a des choses vachement intéressantes. Et ça, c'est bien.
The new trap music.
Je ne vais pas écouter la nouvelle musique
you know what I mean?
Trap dans 10 ans, vous voyez. Mais par contre, les choses
unless
qui sortent, le nouveau genre qui sort là, en ce moment, ça me plaît. J'aime bien les choses nouvelles quand elles sortent.
You know.
Parmi les fans des Lemon Twigs, en dehors des trois personnes qui sont en face de vous, on peut citer Elton John, Paul Weller, Alex Turner. Est-ce que parmi ces supporters pairs, il y en a certains dont vous êtes particulièrement fiers, dont la musique vous parle?
Yeah, I mean, I think it's a pretty, I wear it as a badge of honor that Procol Harum,
ah,
Gary
oui.
Brooker,
Procol
likes
Harum,
our music,
Gary Brooker,
you know?
Voilà, des gens comme ça aiment notre musique. J'en suis très fier.
Elton.
Oui, Elton John.
Yeah, but you know, I don't know, man. I mean, that comes with the territory, doesn't it?
Mais bon,
we get the opportunity
musique,
to.
C'est des choses qui arrivent.
Have people hear that music. I don't know, you know, Gary Brooker,
on a la chance
like that,
parce qu'il y a des gens
I
qui écoutent la musique.
Knew him, so
Gary Brooker, je l'ai rencontré. Gilberto Sullivan.
Somebody, we asked, you know, could somebody get our record to him?
On a
we're
essayé de lui faire passer un disque.
Of, you know, but,
donc vous voyez, c'est une histoire de possibilités qui,
I mean,
qui nous est offerte. Donc, est-ce qu'ils vont nous dire que votre disque est pourri? Peut-être, ils peuvent nous dire que ce disque est complètement naze. Cette musique, c'est de la daube. Mais bon,
yeah.
La musique leur parvient, on a cette chance. Et après,
it's not like they're discovering
ils disent qu'ils
sont pas... Hey, I mean, Elton John, though, that was pretty cool.
Elton John,
that was
ça c'était cool,
on,
parce que ça c'était le début, en réalité. Et c'était pratiquement une découverte. Voilà.
Give that to the people. Ouais. Brought it to the people.
Voilà le message au peuple.
Go to School, c'est votre nouvel album qui vient de sortir, et c'est donc l'histoire d'un singe qui s'en va à l'école, si je comprends bien. Mm-hmm. Pourquoi un singe?
Yeah.
Why not?
Why not, right?
Pourquoi pas,
go.
Absolument. Oui, voilà.
Yeah, I don't know. There's no reason for
je sais
it.
Pas,
I mean,
y a pas de raison particulière.
smart animal, I guess.
Un animal intelligent, sans
doute. More believable or something, but it's not believable. Une certaine crédibilité,
mais de toute façon, c'est pas crédible du tout. Une histoire de dingue.
I don't know, man. Why,
mais je sais pas pourquoi.
Non, mais je vous pose la question du singe, Michael, parce que moi, j'ai un cochon qui vit ici dans ma cave. On pourrait peut-être faire un featuring entre votre singe et mon cochon, non?
You have a what?
A pig.
A pig. Oh, pig.
Cochon. Bon, ok, c'est pas grave. Messieurs, il est, je sais pas quelle heure, enfin l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission, et j'y vais de ce pas.
Oh là là, oh, il fait froid ici, là. Oh, et qu'est-ce qu'il y a mis un congélateur ici? Jean? Jean du jardin, mais qu'est-ce que vous faites là? On dirait Hibernatus. Ah mais oui, je me rappelle.
Jean, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser dans
là,
ma cave,
là, bah, Jean? Moi, mon corps, là.
Vous restez dans la cave,
donc, en fait. Je vais rester dans la cave un peu, là, ouais.
Ok, je vous hiberne.
Oui.
Je me souviens, donc, vous l'avez fait. Et vous êtes venu vous congeler ici tout seul. Bah oui, il peut pas répondre, forcément, il est tout congelé. Tiens, faites-moi un peu de place, Jean, je vais me mettre mes petits sachets de croustibates, là, juste à côté de vous. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es qui, toi? Hein? T'es qui? Kiki? Hein? Ah, t'es le singe des Lemon Twigs, mais oui! Bien sûr, je comprends mieux. Et oui, forcément, et comme vous bossez dans une cave, bah, ça a du sens. Mais attends, Kiki, prends un petit manteau parce que tu vas attraper froid, là. Hein? Ah, mais toi aussi, mon petit cochon, mets ton cache-groin, tu vas attraper un rhume. Mais comment t'es là, Kiki? Qu'est-ce que tu veux écouter, Kiki? Ah, non, c'est un peu trop mou, ça. Ah, c'est pas mal, mais pas assez pop. Ah, bah voilà, les Lemon Twigs, évidemment. Mais tu veux quel morceau? Ok, This Word, là-haut, allez!
Pop, Antoine Decaune sur France Inter.
To know just who I am.
c'est un morceau des Lemon Twigs joué depuis la cave de France Inter par Kiki, le singe des Lemon Twigs. Michael Daddario, Fred Palem, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de cette cave un musée. Qu'aimeriez-vous y laisser tous les deux, symboliquement? Qu'est-ce qui vous plairait de laisser dans ma cave, Fred?
Peut-être laisser une caisse de Charles Aznavour, de Pinard.
Une caisse de Pinard de Charles Aznavour.
Ouais, petite caisse de Petrus 82, il en avait des dizaines, donc ça peut être pas mal qu'il en laisse une, rien que pour
c'est
France Inter.
C'est une excellente idée, hein, merci Fred. Et vous Michael, qu'est-ce que vous aimeriez laisser dans ma cave?
Oh man, all my inhibitions, man.
Toutes mes inhibitions.
Ok, je les prends. Merci, merci à vous deux. Merci Michael, merci Fred d'être venu dans l'émission. Merci, je rappelle que Go to School, le dernier album des Lemon Twigs, est disponible. Et vous l'aurez compris, c'est plus que recommandé par Pop Pop Pop. Comme l'album de Fred Palem, Odyssée. Vous serez en concert à Paris à la Cigale en mars prochain. Là, je parle aux Lemon Twigs. Quant à vous, Fred, merci d'avoir enchanté nos tympans. L'Odyssée, votre nouvel album, sort aujourd'hui même. Il est lui aussi plus que chaudement recommandé. Et j'en profite pour annoncer que vous êtes en concert également en ce moment. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Lundi dans Pop Pop Pop, Marc Trévidic, le juge mélomane. Si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos de covers ratés sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.